Bienvenue à tous dans cet épisode consacré aux systèmes économiques. Pour débuter, rappelons que l'économie n'est pas un simple assemblage de chiffres ou de machines neutres. Elle reflète des choix profonds, à la fois politiques, sociaux et idéologiques. Pourquoi, selon vous, cette dimension est-elle si souvent sous-estimée?
C'est une excellente question. Trop souvent, on imagine l'économie comme une science exacte, alors qu'elle dépend essentiellement de valeurs collectives. On réduit souvent l'économie à des chiffres ou à des modèles prétendument neutres. Pourtant, chaque système véhicule des idéaux. Choisir la propriété privée ou collective, c'est déjà poser un choix idéologique majeur, bien plus qu'une simple option technique. Comprendre les choix, c'est déjà interroger la société dans son ensemble.
En effet, c'est précisément ce qui rend la comparaison des modèles si passionnante. Mais avant d'entrer dans le détail, pouvez-vous préciser pourquoi la question du pouvoir, de la distribution du surplus et des relations capital-travail-production est centrale?
Ces trois axes structurent toute organisation économique. Qui décide? Qui reçoit quoi? Qui prend quel risque? Leur agencement définit non seulement la répartition des richesses, mais aussi la dynamique de l'innovation, du progrès social ou, au contraire, des blocages structurels.
Pour structurer notre échange, nous allons explorer six modèles. Capitalisme, socialisme, coopérative, parécon, ésope et enfin l'éthosisme. Chacun ses particularités et son échelle d'application. Pouvez-vous rapidement les situer les uns par rapport aux autres?
Bien sûr. Les modèles comme le capitalisme, le socialisme, le parécon et l'éthosisme sont des architectures macro-économiques. C'est à dire qu'ils organisent l'économie dans son ensemble. Les coopératives et les ésopes, quant à eux, s'insèrent à l'échelle de l'entreprise et peuvent coexister avec des régimes plus larges.
C'est une distinction essentielle. De plus, chacun de ces modèles propose une réponse différente à la question du pouvoir économique. Cette diversité permet justement de mieux comprendre l'originalité de l'éthosisme que nous allons aborder en profondeur.
Exactement. L'éthosisme, concept élaboré par José Quimonio et exposé en détail dans son ouvrage paru il y a 5 ans, constitue une véritable rupture. Il ne se limite pas à ajuster les frontières entre travail et capital, il les redessine de fond en comble, comme nous allons le constater dans un instant.
Entrons dans le vif. Tournons-nous vers l'éthosisme, la conception formulée par José Quimonio. Sa proposition la plus audacieuse et frappante, il abolit purement et simplement les salaires. En quoi cela remet-il radicalement en cause les postulats fondamentaux à la fois du capitalisme et du socialisme?
Certainement. L'éthosisme considère à la fois le travail et les apporteurs de capitaux comme des contributeurs dynamiques et négociables à la création de valeur. Au lieu de salaire fixe, l'ensemble du profit est réparti entre tous les participants, avec des parts réajustées chaque fois que de nouveaux travailleurs ou de nouveaux capitaux entrent en jeu. De cette manière, les revenus restent toujours liés à la performance réelle de l'entreprise, plutôt que d'en être détachés.
Cela ressemble à une entreprise où la frontière entre propriétaire et salarié disparaît, mais en pratique, comment sont décidées les parts? Un nouveau venu modifie-t-il l'équilibre? Et contrairement au système traditionnel, dans l'éthosisme, le revenu est directement lié au succès ou à l'échec de l'entreprise. Comment cela reconfigure-t-il à la fois la motivation et la manière dont le risque est partagé?
Exactement. Lorsqu'un nouveau membre ou investisseur arrive, l'ensemble des parts est rediscuté. C'est un système dynamique qui exige une gouvernance transparente et un dialogue constant. On pourrait comparer cela à un orchestre où chaque musicien ajuste son volume pour maintenir l'harmonie collective. Il instaure une exposition équilibrée, les revenus augmentent ou diminuent selon les résultats. Là où les salariés traditionnels sont protégés du risque, l'éthosisme fait de chaque participant un copartenaire, favorisant ainsi l'engagement actif et une gouvernance responsable.
Pour mieux saisir la singularité de l'éthosisme, comparons-le aux coopératives. Celles-ci instaurent un principe démocratique, un membre, une voix, mais elles conservent à la fois salaire et partage du surplus. Comment cela se traduit-il dans la réalité?
Dans une coopérative, Les travailleurs sont à la fois salariés et copropriétaires. Ils décident ensemble de la gestion, mais restent soumis à la pression concurrentielle du marché. Selon une étude de l'OCDE, 90% des coopératives finissent par adopter des structures hiérarchiques proches de celles des entreprises classiques pour survivre économiquement.
Donc, malgré leur idéal démocratique, elles tendent à reproduire des inégalités internes ou des rapports traditionnels capital-travail.
Elles érodent la frontière sans jamais l'effacer, préservant une hiérarchie implicite entre travail et capital. En ce sens, elles traduisent moins une véritable transformation qu'un compromis stratégique entre la promesse d'efficacité du marché et l'idéal de participation collective.
Passons au capitalisme, fondé sur la propriété privée et le travail salarié. Les propriétaires investissent, les salariés exécutent et les profits sont extraits du surplus. Quels avantages et limites majeures voyez-vous à ce système ?
Le capitalisme a une force d'innovation remarquable, car il récompense la prise de risque et encourage l'investissement. Mais il institue une fracture structurelle. Les profits vont aux propriétaires, tandis que les salariés sont considérés comme un coût à réduire. Selon Piketty, les 10% les plus riches détiennent 60% du patrimoine mondial, illustrant cette concentration.
La fixation du salaire semble donc créer une forme d'invisibilité du travail dans la création de valeur. Le système d'incitation souvent vanté ne bénéficie pas également à tous les acteurs.
Les incitations bénéficient avant tout à ceux qui détiennent déjà le capital initial, consolidant ainsi des positions acquises et creusant des inégalités structurelles que la mobilité sociale, souvent brandie comme remède, ne parvient pas à résorber. Pire encore, ces incitations sont fréquemment gonflées à dessein, instrumentalisées pour servir des agendas politiques plutôt que l'intérêt collectif.
Contrairement au capitalisme, le socialisme supprime la propriété privée des moyens de production. Ici, l'État ou des collectifs dominent et le surplus est réinvesti dans le bien commun. Quels sont les principaux effets de cette centralisation ?
Le socialisme garantit une sécurité et une équité accrue, notamment via l'accès universel aux services essentiels. Cependant, la centralisation engendre souvent des rigidités bureaucratiques. Par exemple, dans l'ex-URSS, la standardisation des salaires et des emplois a freiné l'innovation individuelle et réduit la reconnaissance des efforts singuliers.
La Chine parle de socialisme à caractéristiques chinoises, un modèle qui mêle planification centralisée et logique de marché. En quoi ce socialisme à la chinoise diffère-t-il des approches socialistes classiques ?
La grande différence, c'est que la Chine a introduit le marché au cœur d'un système toujours dirigé par l'État. La centralisation reste forte, le parti fixe les priorités stratégiques, mobilise des ressources massives et peut orienter des secteurs entiers en un temps record. Mais en parallèle, elle a libéré l'investissement privé, ouvert ses marchés et favorisé la concurrence interne. Résultat, une croissance spectaculaire, mais aussi des contradictions profondes, des inégalités régionales qui explosent, des bulles spéculatives récurrentes et une innovation parfois bridée par la peur de contredire la ligne officielle. Ce modèle est hybride. Il combine la puissance d'un État central fort avec les outils d'un capitalisme dirigé, sans jamais renoncer au contrôle politique.
L'économie participative, ou Parecon, propose une alternative radicale, la rémunération selon l'effort et le sacrifice, évaluée par les pairs. Comment fonctionne concrètement ce système ?
Dans le Parecon, un travailleur n'est pas jugé sur ses résultats, mais sur son effort et la complexité de sa tâche. Des conseils de pairs attribuent des crédits d'effort pour évaluer la contribution de chacun. L'objectif est d'atteindre une véritable équité. Mais ce système demande une coordination permanente et une forte implication collective, ce qui peut devenir très contraignant au quotidien.
N'y a-t-il pas un risque de subjectivité, voire d'épuisement des participants à force de négociations et d'évaluations continues ?
Oui, c'est un point faible, identifié par de nombreux analystes. Le Parecon favorise la justice, mais au prix d'une lourdeur administrative et d'une pression sociale qui peut devenir pesante pour certains individus.
Les ESOP, ou plans d'actionnariat salarié, introduisent une forme de propriété partagée dans le cadre capitaliste. Comment cela modifie-t-il la répartition du pouvoir et des richesses?
Avec les ESOPs, les salariés reçoivent des actions de leur entreprise, souvent pour leur retraite. Cela améliore la répartition de la richesse, car ils touchent des dividendes en plus de leur salaire fixe. Cependant, le pouvoir reste majoritairement entre les mains des dirigeants et des actionnaires historiques. Selon la NCIO, moins de 15% des sièges de conseil sont détenus par les salariés dans la majorité des ESOP.
Donc, malgré une meilleure inclusion financière, la gouvernance évolue peu. Peut-on parler d'une véritable transformation ou d'un simple aménagement du modèle capitaliste?
C'est davantage un ajustement qu'une révolution. Les ESOP apportent une sécurité supplémentaire et réduisent certaines inégalités. Mais ils ne remettent pas en cause le principe de la propriété privée, ni la hiérarchie dans la prise de décision.
Pour synthétiser, comparons ces modèles selon trois critères, la propriété, la gestion du risque et l'adaptabilité. Quel contraste majeur observez-vous?
Le capitalisme et les ESOP préservent la propriété privée, tandis que le socialisme la collectivise via l'État. Les coopératives et le Parecon cherchent des formes partagées. L'éthosisme est unique. Il fait de la propriété un flux, pas un stock, en associant droit et responsabilité à la contribution réelle et évolutive.
Et concernant le partage du risque?
Sous le capitalisme, le risque pèse surtout sur les salariés, alors que les propriétaires récoltent le surplus. Le socialisme mutualise le risque via l'État. Les coopératives et ESOP en partagent une partie, mais l'éthosisme, lui, distribue symétriquement risque et récompense, ce qui favorise l'engagement collectif et la résilience.
Enfin, sur le plan de l'adaptabilité, quel modèle semble plus réactif au changement?
L'éthosisme, lui, joue dans une autre catégorie. Il réajuste les parts en temps réel, ce qui lui donne une flexibilité unique. Le capitalisme s'adapte vite, mais creuse les inégalités. Le socialisme, lui, reste rigide, tandis que le Parecon parie sur l'équité, mais souvent au détriment de la rapidité. En clair, l'éthosisme ne se contente pas d'adapter le système, il réécrit les règles du jeu.
Abordonne la question du secteur public. Comment la rémunération des fonctionnaires varie-t-elle selon les modèles que nous avons évoqués?
Dans le capitalisme, les salaires des fonctionnaires sont fixés par contrat et par négociation politique, souvent déconnectés de la performance. Le socialisme généralise cette approche, mais avec une uniformisation plus marquée, renforçant stabilité et sécurité au détriment de l'innovation.
Qu'en est-il du Parecon et de l'éthosisme dans ce domaine particulier?
Le Parecon rémunère les fonctionnaires selon l'effort et la complexité, jugés collectivement, mais conserve le principe du salaire fixe. L'éthosisme innove totalement. Ici, les fonctionnaires reçoivent une part du budget de leur département, proportionnelle à la performance et la bonne gestion. Ils deviennent ainsi co-responsables, et non de simples exécutants.
Un aspect souvent négligé est le rôle de la banque centrale. Comment l'éthosisme bouleverse-t-il cette institution clé par rapport au capitalisme ou au socialisme?
Dans le capitalisme comme dans le socialisme, la banque centrale sert d'arbitre entre salaire et profit. Elle monte ou baisse les taux, contrôle la liquidité, tente de freiner l'inflation. Mais en éthosisme, cette tension disparaît. Le revenu du travail, c'est le profit. Les travailleurs ne touchent plus de salaire fixe détaché de la performance. Ils partagent directement les résultats. Du coup, la banque centrale n'a plus de rôle stratégique. Elle devient inutile comme arbitre.
Cela signifie-t-il que la banque centrale perd son pouvoir d'intervention?
Sans salaire déconnecté de la création de valeur, les tensions inflationnistes s'atténuent. Mais cela exige une transparence totale et une discipline collective forte pour éviter de nouveaux déséquilibres. Dans ce cadre, la banque centrale n'est plus cette institution toute puissante qui manipule l'économie. on peut même envisager de s'en passer complètement. Au mieux, elle se réduit à un registre transparent, une chambre de compensation, destinée à garantir la clarté et prévenir la fraude. Plus de spirale prix-salaire, plus de hausse de taux pour calmer la demande, plus de spéculation à arbitrer. En clair, la Banque centrale passe du rôle de maître du jeu à celui de simple comptable de confiance et, en éthosisme, elle devient tout simplement inutile et peut être abolie.
Pour conclure, ces modèles ne sont pas de simples outils techniques. Ils incarnent des visions différentes de la justice, de la liberté et de la responsabilité. En quoi l'éthosisme nous oblige-t-il à repenser notre rapport au travail et à la richesse ?
L'éthosisme bouscule nos repères traditionnels. Il nous force à envisager le revenu comme le fruit d'une contribution négociée et évolutive, et non d'un statut figé. Cela pose de nouveaux défis. Comment garantir l'équité sans rigidité ? Comment éviter la domination d'une minorité active sur les plus passifs ?
Chaque système implique ses compromis, efficacité contre équité, stabilité contre adaptabilité. Finalement, l'économie apparaît comme un espace de lutte, et non de simple gestion. Que retenir pour l'avenir ?
Qu'aucun modèle n'offre de solution parfaite, mais en posant les bonnes questions, qui décide, qui bénéficie, à quel prix nous pouvons concevoir des structures économiques qui reflètent mieux nos aspirations collectives et nos exigences démocratiques.
Merci de votre écoute attentive. Nous espérons que ce panorama vous aura permis de mieux cerner les enjeux cachés derrière chaque architecture économique. Pour le prochain épisode, nous explorerons un nouveau front, la technologie amplificatrice ou correctrice des inégalités.
Un sujet passionnant, car l'innovation technologique peut à la fois renforcer les privilèges existants ou ouvrir des voies inédites d'émancipation collective. Restez connectés.
À très bientôt pour poursuivre ensemble cette réflexion sur nos institutions et sur nos possibilités de transformation collective. Merci et à la prochaine.